Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première, pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e Art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi!
Et voilà, une bonne trêve de merde et revoilà les plans sur la comète. Une bonne tartine contre les Allemands, histoire de pas laisser mourir les traditions et pas se dire que l'Alsace et la Lorraine, c'est acquis. Un match pénible contre le Chili et le sketch des 70 millions de sélectionneurs est de retour. Deschamps est un Guy Lacombe sans moustache, Mbappé un Guy Varche sans nuque longue et les Bleus sont devenus en 10 jours une vulgaire équipe de foot plaisir. On crie au fiasco à tout va, on passe de favori à loser. Alors oui, bien sûr, à force de crier au loup et à la fin de cycle, à chaque compétition internationale, ça va finir par tomber, ouais. Et je sais que notre ami Alex, par exemple, sera le premier à crier à l'escroquerie des champs si jamais on sort en poule, ou à invoquer sa chatte légendaire si on arrive en finale. Mais mine de rien, les années passent et se ressemblent. Oui, on se fait chier, oui, cette équipe a des carences, oui, on se vautre en masse de prépa, mais la Dèche a de la ressource. On sait déjà qu'un ou deux joueurs vont se surpasser pendant la compétition, Salam, Moussa Sissoko. On sait déjà que Kix sera en mode Super Saiyan comme il le fait toujours, on sait très bien que Giroud va finir par servir à quelque chose, et que Grisou va jouer trois postes à la fois. On aura sûrement des surprises, des frayeurs, on va pronostiquer et être défaitiste bien sûr, mais les bleus seront là. Fini les années noires où on savait que l'on sortait en poule, voire au mieux en huitième. Alors c'est pas dit qu'on la gagne celle-ci, c'est même pas dit qu'on aille loin. Mais c'est aussi le propre de ces compétitions. On va trembler beaucoup, on va se réunir, on va sûrement pleurer, gueuler aussi, mais on sera là. Ce sera peut-être la dernière de Dédé, peut-être l'avènement de Kiki ou sa mise à mort en tant que capitaine. Peut-être qu'on va se rendre compte que Dayot ne bégaye pas qu'en interview, mais quoi qu'il arrive, on y sera. Et dans ces compétitions où tout se joue à un poil de Kane ou sur un contrôle raté, une séance de péno, un pénalty injuste, tout peut basculer. Bien malin ce qui peut dire aujourd'hui ce que sera le résultat final dans 3 mois. Alors on va doucement mettre ses chaussons d'enfant, on va arrêter les analyses tactiques sur Twitter et les débats sur les 23, même si évidemment que Bourigeaud devrait y être, et on va regarder. On va sentir, on va vivre, on va aimer ce foot qui nous a tant apporté et qui se sublime lorsque les sélections entrent en piste. Messieurs, dames, oui la France est nulle, oui la France est magnifique et vive la France. Bonjour à tous, épisode un peu spécial aujourd'hui car l'équipe 11e art ayant le malheur de trop travailler pour payer son loyer, ce sont les deux chômeurs de la bande qui vont tenter de vous faire kiffer les bords de la Mersey en duo aujourd'hui. Alors quand je dis chômeur, bien sûr, c'est Valentin Aznar, même si le terme est un petit peu usurpé. On a connu Pénélope Fillon qui se faisait payer et faisait semblant d'avoir un job. On a maintenant Znou qui ne se fait pas payer, fait semblant de ne pas avoir de job alors qu'il bosse à plein temps pour vous régaler. Le conduit auditif chaque semaine, ça va Val?
Écoute, ça va très bien. Et en fait, tu t'es fait avoir par l'excuse de Flo qui t'a fait croire que tu bosses. Mais je pense que quand il a capté qu'on prépare un épisode sur Everton, il a complètement abandonné. Hein. Je te rappelle qu'il est supporter de Liverpool quand même.
J'ai vu d'un seul coup, il a eu un emploi du temps très très chargé ouais. dès que le sujet est sorti.
Alors, quand il s'agit de regarder les courses cyclistes le mercredi après-midi en télétravail, il y a du monde. Mais par contre, quand il s'agit d'enregistrer des épisodes sur Everton, il n'y a plus personne.
Je pense qu'on aurait fait un épisode sur Auxerre, il se serait démerdé pour se trouver une petite plage horaire. Comme tu l'as dit, on va parler d'Everton, les gars. Donc, je propose qu'on aille sur les bords de la Mersey. Et promis, on ne parlera pas du départ de Jürgen Klopp cette fois. Bienvenue dans ce qui est l'un des plus grands clubs d'Angleterre, ennemi juré de Liverpool sur les bords de la Mersey. Les Toffees vivent une saison compliquée, surtout du point de vue comptable avec ce retrait de points administratif. On va vous en parler un petit peu plus tard. On va voir comment les hommes de Sean Dyche, en sont arrivés là. Et avant tout, Val, on va revenir un petit peu sur le contexte historique sans se faire tout le déroulé de la faste histoire d'Everton. Il y a beaucoup de choses sur le sujet si vous voulez creuser. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que Everton est un des plus grands clubs d'Angleterre. Il a été fondé en 1878, donc c'est un des premiers clubs. C'est un des clubs fondateurs de la première division anglaise. Donc il fera aussi partie des clubs fondateurs de la première ligue en 1992. Mais la première division anglaise professionnelle de foot à la fin des années 1800, c'est bien à l'initiative d'Everton. Pourquoi je dis que c'est un des plus grands clubs de première ligue, tout simplement parce qu'on a tendance à oublier, par exemple, que Everton est le quatrième club à avoir remporté le plus de championnats derrière Arsenal, Man U et Liverpool, ce qui est quand même pas dégueulasse, avec 9 championnats. Vous rajoutez ça à ça quelques FA Cup et une coupe des vainqueurs de coupe dans les années 70, si je dis pas de bêtises, ça vous pose un peu le merdier. La difficulté, c'est que les Toffees n'ont rien gagné depuis 1995, pas un seul titre à se mettre sous la dent. Alors évidemment, il y a eu des années fastes dans les années 2000, on va y revenir, même si on va dire que les vraies années fastes du club, c'était avant la Première Guerre mondiale, où ils ont, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, où ils ont remporté la petite bagatelle de 4 championnats en 30 ans. Val, on va dire juste un petit mot, un petit peu pour comprendre comment on en est arrivé là, notamment. Par exemple, sur les années Moyes, dans les années 2000, pour notre
Ouais, qui sont
génération,
assez
c'est ce qui est...
marquantes. Il restera longtemps,
Ouais.
David Moyes.
C'est ce qui est plus... c'est ce qui est le plus marquant. D'ailleurs, un jour, il faudrait peut-être redonner aussi ses lettres de noblesse avec à David Moyes, parce qu'il est encore en train de faire une saison pas dégueulasse,
Ouais,
avec
c'est
un
son
effectif de
moment.
West Ham qui est
C'est son
affreux.
moment. Alors, l'effectif de West Ham n'est pas si affreux que ça. Je suis pas complètement
Non.
d'accord avec toi, mais.
Non, mais ils ont un gros mitard, mais devant, t'as quand même pas grand monde. Enfin bref, de toute façon,
Ouais. C'est pas le
c'est pas
sujet.
le sujet du
Mais
podcast.
en tout cas, l'aventure de David Moyes à Everton a été assez marquante, un peu à la manière d'un Sir Alex. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait été sélectionné par Sir Alex lui-même à la fin de son mandat à Everton, pour le remplacer à
Exactement.
Manchester.
Et donc, pour rappeler un petit peu les choses, par exemple, Everton avec David Moyes, c'est par exemple une quatrième place, un Big Four, alors qu'il y avait déjà les gros clubs, les gros mastodontes qu'il y a aujourd'hui. Ces trois qualifications européennes, c'est des joueurs qui ont marqué, à mon avis, notre génération. Il y a quand même eu un très grand Marouane Fellaini à Everton, les jeunes ne s'en souviennent pas. Mais on va dire que pour notre génération, c'était entre guillemets le moment où on pensait qu'Everton passerait un cap. Peut-être s'installerait dans un Big Six, Big Eight de la Première Ligue. Et on va dire qu'après le départ de Moyes, ça a alterné, on va dire, entre le pas bon du tout et le moins bon. Mais Everton n'est jamais descendu. L'ennemi juré des Reds est toujours resté en Première Ligue. Ça pourrait être cette saison avec Sean Dyche. Pour bien comprendre et remonter du coup à l'arrivée de Sean Dyche, Val, je vous propose qu'on revienne à 2016, qui est une date un petit peu marquante pour le club de la Mersey.
Ouais, ça fait 70 ans que 71 ans, je crois, qu'Everton n'est pas descendu en deuxième division anglaise.
Oui, pardon, ils sont peut-être descendus
Ils sont
exactement, mais...
descendus il y a quelques décennies déjà. Mais ouais, tu l'as dit. En fait, on passe un petit peu moins de temps aujourd'hui sur la partie historique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur la situation d'Everton actuellement et peut-être de manière plus générale depuis l'arrivée de Farhad Moshiri, qui est donc le président du club depuis 2016, qui est un businessman irano-britannique installé à Monaco. En fait, c'est quelqu'un qui a, alors entre guillemets, fait fortune et qui s'est fait connaître notamment quand il était président de USM Holdings, qui est une compagnie russe fondée par Ousmanov, qui est un grand milliardaire et businessman russe, qui a justement fondé USM Holdings, qui est un conglomérat d'entreprises spécialisées dans l'industrie métallurgique et dans les industries minières. Donc évidemment, en Russie, il y a un petit peu de boulot dans ces secteurs-là et il y a un petit peu de choses à faire.
Tout le business comme on l'aime.
Ouais, exactement. Le problème, c'est que du coup, Farhad Moshiri arrive en 2016 avec évidemment l'influence du porte-monnaie de Ousmanov derrière lui, qui le back-up, enfin qui le back justement sur tous les aspects financiers. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a un changement évidemment de politique sportive au moment où Moshiri arrive, et une politique sportive qui va. Alors, c'est difficile de la déterminer comme catastrophique, mais peut-être un petit peu trop ambitieuse. En fait, ils vont miser beaucoup sur l'achat de joueurs, sur des gros achats de joueurs. En fait, Moshiri, comme il a le portefeuille derrière de Ousmanov, s'entête pas trop à se préoccuper des dettes du club, etc. Donc, ils vont faire des gros achats de joueurs à qui ils vont accorder des gros salaires et surtout des joueurs avec pas forcément de perspective de plus-value parce que c'est des joueurs qui sont déjà âgés. Alors, quand je dis déjà âgés, c'est toute proportion gardée. Je vais citer des exemples qui veulent tout, enfin, avec des joueurs qui sont un petit peu plus jeunes, etc. Mais il y a quand même des joueurs déjà assez expérimentés qu'ils achètent 27 à 27, 28 ans et avec lesquels ils savent qu'ils vont pas faire de plus-value. Par
Donc en
exemple,
fait,
sur.
ouais, avant que tu cites l'exemple, en gros, pour raconter un peu, moi je trouve que de l'extérieur, en fait, depuis que Moshiri est là, c'est Everton un petit peu ce qui est symptomatique des clubs de première ligue qui ont beaucoup de thunes et qui, enfin, du milieu de tableau, qui ont beaucoup de thunes et qui vont surpayer des joueurs
Voilà.
un petit peu à tout va.
Après, c'est aussi les prix de la Première Ligue aussi, et ils payent aussi les conséquences du fait que bah, la Première Ligue soit extrêmement riche avec ses droits télé. Mais voilà, il y a des investissements qui sont pas forcément très intelligents. Depuis que Moshiri est arrivé au club, j'ai listé une liste de transferts qui ont dépassé les 30 millions d'euros, avec des joueurs qu'on peut considérer plus ou moins comme des flops, ou alors des flops compte tenu de l'investissement qui a été mis sur eux. Exemple, Iwobi, 30 millions. Jean-Philippe Gébamin, 25 millions. André Gomez, 25 millions. Sigurdsson, 50 millions, même s'il a fait des bonnes choses à Everton. Moise Kean, 33. Cheick Tosun, 31. Yerry Mina, 31. Bolasie, Keane, Alan, Schneiderlin, Walcott, tout ça au-dessus de 25 millions. Donc voilà, c'est énormément d'investissements sur des joueurs qui ont su répondre présent sur des petites périodes, mais qui n'ont pas forcément crevé l'écran non plus, compte tenu des investissements qui ont été portés sur eux. Quoi.
Et là-dedans, tu as des catastrophes financières, hein, les Tosun, Gébama, etc. Je ne suis même pas sûr que ce soit plus de 10 matchs. Donc, quand tu mets 30 millions sur un joueur et qu'il ne fait pas plus de 10 matchs, c'est compliqué.
Gébama, 25 millions, j'avoue que je l'avais oublié, celui-là, il m'a un petit peu surpris. Et donc, ajouté à cette politique sportive un petit peu déficiente, avec des gros salaires et des grosses indemnités dépensées, tu rajoutes aussi un déficit opérationnel tous les ans. Le club perd de l'argent dans son fonctionnement au quotidien. Ça, c'était souvent compensé justement par le porte-monnaie de Ousmanov. Et surtout, à partir de mars 2022, on sait que la Russie envahit l'Ukraine pour des questions évidemment politiques. Et le problème, c'est que Alisher Ousmanov est évidemment un businessman russe, donc ses comptes sont gelés, ses activités dans le club sont suspendues. Et le problème, c'est que ses activités dans le club ne représentaient pas seulement le fait de remettre de l'argent au pot tous les ans, mais il était aussi, il représentait aussi tous les sponsors du club, USM, Megaton, Yota. Et en plus de ça, le financement du projet du nouveau stade d'Everton qui devrait arriver pour 2025-2026, donc un projet quand même aux alentours de 930 millions d'euros, était aussi construit à travers la fortune d'Ousmanov. Voilà, c'est évidemment très très compliqué pour le club à partir de ce moment-là, qui voit une très grande partie de ses revenus et de ses liquidités suspendues, entre guillemets. Pour vous donner un exemple, typiquement, le centre d'entraînement avait été rebaptisé USM Finch Farm en référence à l'entreprise d'Ousmanov. Et il avait également une option de 30 millions de livres, donc 36 millions d'euros environ, pour donner le nom d'une de ces entreprises au nouveau nom du stade actuellement en construction. Donc voilà, c'était des grosses, grosses sources de revenus. En fait, c'était lui qui compensait tous les déficits du club, alors qu'il y a évidemment des recettes avec les droits TV, etc. Mais c'était le mec qui remettait la main au pot tout le temps, quoi.
Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à l'époque de la guerre en Ukraine, à juste titre, du Chelsea d'Abramovich, mais qui à la limite a laissé un club qui n'était pas autosuffisant, mais tournait quand même très bien. Everton reposait énormément sur Ousmanov. Et du coup, qui est-ce qui a racheté le club, Val? Parce que c'est là-dedans qu'on va rentrer un peu dans le micmac et essayer de mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Et on va dire que tu es allé tripouiller tout ça pour nous, parce que c'est quand même un sacré bordel.
Ouais, c'est un sacré bordel. Bah, du coup, depuis, pour être tout à fait clair, depuis septembre 2023, il y a une offre du fonds d'investissement 777 Partners pour le rachat du club.
Et du coup, 777 Partners, on commence quand même à les voir de plus en plus dans le foot, pas toujours pour les meilleures raisons. Est-ce que pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce fonds d'investissement, en fait? Et puis même, à la limite, si tu peux dire un petit mot sur ce qu'est un fonds d'investissement et pourquoi y mettre des billes dans le foot, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas.
Bah oui, bah l'idée, c'est d'investir dans des domaines pour pouvoir ensuite faire des plus-values une fois que l'entreprise que tu as achetée ou la filiale que tu rachètes prend de la valeur et ensuite gagne de l'argent. Sauf que ça dépend des gestions et tu ne gagnes pas forcément de l'argent si tu gères n'importe comment ton business.
Mais en gros, il n'y a aucune portée philanthropique comme ça peut l'être avec l'investisseur
unique. Non, clairement pas. Mais du coup, 777 Partners ou 777 comme on les appelle parfois, c'est donc un fonds d'investissement qui est spécialisé dans plusieurs domaines, donc évidemment le sport avec tous les investissements qu'on connaît et sur lesquels on reviendra après, mais aussi les assurances, l'aviation, la fintech, donc la technologie des services financiers, l'environnement, les banques, etc. Donc plein de domaines différents. Et en gros, dans chaque domaine, soit le fonds acquiert des entreprises qui existent déjà, donc par exemple dans le sport, le rachat du Genoa, le rachat du Red Star, le rachat du Standard de Liège, soit il crée des filiales ou des filiales qui existent déjà. Typiquement, dans les assurances, 777 Partners a une filiale qui s'appelle 777RE, donc qui est une société qui est créée aux Bermudes et qui est spécialisée dans la réassurance, donc l'assurance de société.
Ouais, aller aux Bermudes.
Disons qu'il y a peut-être quelques avantages fiscaux là-bas qu'il n'y a pas dans d'autres pays, au hasard.
C'est pour le climat aussi, le climat.
Le climat, évidemment, bah, il fait beau. Le télétravail aux Bermudes est quand même tout à fait délicieux. Mais voilà, mieux qu'à Liverpool, ouais. Donc 777RE qui est donc une spécialisée dans la réassurance, donc l'assurance de société d'assurance. En gros, l'idée.
Ok. Et du coup, parce que du coup, c'est quand même très nébuleux. Et d'ailleurs, de manière générale, on l'a vu hein, en France, notamment quand il y a un fonds d'investissement qui a racheté Bordeaux avant Gérard Lopez, etc. C'est souvent
Ouais,
assez
chez
nébuleux,
ACP.
les fonds d'investissement. On a toujours du mal à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce que sur cette partenaire, on en sait un petit peu plus?
Bah, il y a un mec qui a la tête, qui est un peu l'image de la société. C'est un mec qui s'appelle Josh Wander, qui est un financier qui a, dans sa carrière, créé de nombreuses entreprises dans le domaine de la finance. Il a d'ailleurs été élu récemment au COMEX de l'ECA, donc le syndicat des clubs européens, pour représenter les
Oui, pas
clubs
le nôtre.
belges. Non, non. Non, pour représenter les clubs belges. Et ce qui était une petite blague vu sa gestion du Standard, mais on y reviendra tout à l'heure. Et c'est un personnage assez sulfureux en fait qui a investi alors tantôt dans des sociétés un peu frauduleuses, tantôt dans des sociétés proches de réseaux de crime organisé. Typiquement, à 22 ans, il est arrêté pour trafic de cocaïne.
Oh,
Quelques années plus tard,
qui ne l'a pas fait?
bah. Aux Bermudes, en tout cas, je pense que ça doit être assez fréquent, peut-être. En 2009, il est accusé de détournement d'informations confidentielles dans une entreprise dans laquelle il travaillait. À ce moment-là, il quitte l'entreprise. Il rencontre un autre gars qui s'appelle Steven Pascoe, qui est un ancien promoteur immobilier et qui s'est lancé dans l'investissement bancaire. Et à ce moment-là, ils fondent tous les deux Sutton Park Capital, qui est donc une société d'investissement et qui, à cette époque-là, a un certain succès.
C'est marrant parce que même si tu les connais pas, dans un film, Josh Wander et Steven Paston, c'est les méchants. À
Ouais,
aucun
c'est les
moment,
méchants.
tu vois, c'est sûr, c'est les méchants. Même il ferait
C'est clair pour
passer
ça.
le bon
Ouais.
Ousmanov pour un gentil philanthrope des territoires de l'Est. Et donc, du coup, j'imagine que, enfin, bon, l'évolution, on va dire, cocaïne finance est un biais classique. David Guzman pourra nous en dire beaucoup là-dessus. Mais je suppose qu'à travers ce genre de taf, tu es amené à rencontrer quand même pas mal de gens quand tu fais de la
Ouais.
grosse moula, comme disent les jeunes.
Bah clairement, et en fait il va rencontrer notamment un mec qui s'appelle Wayne Boych, qui est donc un financier
Un
aussi,
méchant aussi?
un méchant
Wayne
aussi c'est
Boych.
sûr, Wayne Boych, voilà, bah tous les mecs qui s'appellent Wayne souvent déjà ils sont un peu catégorisés comme méchants, mais donc ce mec-là c'est un financier aussi qui va plus tard devenir une source de financement de 777 Partners, et Boych en fait c'est un mec qui est très proche du milieu de la jet set de Miami, typiquement en fait il organise énormément de soirées chez lui, voilà, il se retrouve avec toutes les stars de Miami et notamment il invite beaucoup Wander au début à participer à ces soirées-là et c'est comme ça d'ailleurs que Wander se retrouve à fêter le titre du Miami Heat en 2012 avec donc t'as des photos avec LeBron et D Wade en train de sabrer le champagne etc. Et surtout Boych c'est un proche de Donald Trump,
Oh
c'est un
bah
mec
tiens.
oh, comme par hasard, à Miami, en Floride, comme par hasard. C'est typiquement un mec qui a beaucoup participé financièrement à sa campagne. Et justement, Wander, enfin Josh Wander va capter que c'est quelqu'un d'assez important. Il va le suivre un petit peu partout. Bon, ça l'empêche pas de continuer à faire ses petites magouilles à côté. À ce moment-là, il est encore accusé plusieurs fois bah, d'arriéré de paiement sur des dettes contractées, alors soit dans des boîtes de nuit, soit plus simplement sur certains comptes bancaires.
Oh, qui ne l'a pas fait?
Qu'il n'a pas fait non plus, bah voilà. Et donc, on arrive en 2015, et
Tiens
là,
d'ailleurs à dire que c'est très financier parce que David Luzman a un petit arriéré de paiement au Macumba de Melun
Ouais.
pour visiblement 1 mètre de shot.
Qu'il a jamais bu, en plus, c'est ça qui est
Non.
problématique. Et donc, on arrive en 2015, où Josh Wander, avec Steven Pascoe, crée 777 Partners, dans lesquels il intègre sa société, donc Sutton Park Capital. Et justement, à ce moment-là, encore une petite affaire, Sutton Park Capital est accusé de racket auprès de deux jeunes filles atteintes de problèmes de toxicomanie et qui auraient confié leur rente familiale à Sutton, qui en aurait profité pour, bah, évidemment, plumer tout le monde. Donc voilà le type de personne à peu près à qui on a affaire, si tu vois ce que je veux dire en termes de
C'est marrant parce
micmac.
que sans cliché aucun entre les Bahamas, les arriérés de paiement, Donald Trump, on pourrait faire un bingo des enculés.
Ouais, c'est.
Je pense qu'on pourrait avoir des bons scores en avance parce que tu as l'impression qu'ils font tous les mêmes conneries, ils ont tous la même vie.
Bah, si tu veux le faire d'ici la fin de l'émission, à chaque fois tu sors un nouveau truc, à chaque fois qu'il y a un bingo, voilà, tu n'hésites pas.
Le bingo des bâtards. Et du coup, parce que tu as quand même dit que Sutton Park, ça fonctionnait bien et que ça faisait quand même un peu de fric, Est-ce que du coup, cette partenaire, c'est une entreprise autosuffisante ou pas
Ou
du
pas
tout?
du tout. Bah, en fait, ils communiquent sur le fait qu'évidemment, ils sont autosuffisants, qu'ils n'ont absolument pas de problème d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, ils sont quand même soutenus par des investisseurs extérieurs, notamment Boyk, donc Boyk de Wayne Boyk Investment Group, qui a détenu pendant longtemps d'ailleurs une majeure partie des parts de 777, puisqu'il les a financées, avant évidemment de revendre beaucoup de ses parts, parce qu'il y a eu un énorme scandale de corruption avec une de ses autres entreprises, donc il s'est évidemment sorti de tout ce merdier en revendant tout ce qu'il avait.
Mais ça suffit, Wayne.
Bah,
Wayne,
c'est dingue.
il est méchant, mais il est méchant.
Bah, ils sont tous méchants, mec, je te dis. Et 777 Partners va alors décider de diversifier un petit peu ses activités. Ils vont investir dans de nouveaux secteurs, comme le football, donc c'est ce que je te disais, mais aussi dans d'autres secteurs, comme l'aviation, par exemple. Mais voilà, c'est à ce moment-là qu'ils vont investir pour la première fois dans des clubs de foot, en commençant par Séville et par le Genoa. Et pendant ce temps-là, bah, Josh Wander va aussi faire la connaissance de nombreuses personnes influentes dans le monde du business, dont notamment certains petits oligarques russes. Il y a un premier gars qui s'appelle Gennady Timchenko, qui est un oligarque évidemment proche de Poutine, qui avait fait affaire avec, devine qui, notre ami Wayne Bosch, dans une mine de charbon très juteuse du Montana. Donc ça, c'est déjà un personnage avec qui il commence à faire un peu de business. Mais le plus important, c'est un mec qui s'appelle
C'est
Oleg
bien parce que
Boyko.
c'est en fait Wonder, il avait fini la carte des enculés à l'ouest et c'est
Voilà.
maintenant que je vais aller voir à
Ouais.
l'est.
Exactement. Mais le plus important, en fait, l'autre oligarque qui est très important, c'est un mec qui s'appelle Oleg Boyko, donc évidemment lui très proche aussi de Poutine. Lui, il détient un groupe international de sociétés qui sont spécialisées dans les finances, dans la banque, l'informatique et l'immobilier. Truc un peu fourre-tout, voilà, évidemment, je te laisse deviner où sont ses bureaux. Émirats Arabes Unis, Serbie, Chypre. Là encore, je pense que notamment à Chypre, il y a quelques petits avantages fiscaux. Mais en
Pour le
gros, c'est
climat.
lui. Hein? Le climat aussi, oui,
Pour le
évidemment, le climat.
climat.
Mais voilà, c'est lui qui va notamment aider Wander, donc de 777, à racheter les parts du Genoa et du FC Séville, en finançant notamment les prêts qui ont permis les rachats. Et d'ailleurs, le jour où, par exemple, je dis ça au hasard, hein, parce que ça n'arrivera probablement pas, connaissant la super gestion de 777 Partners, mais le jour où éventuellement le Genoa ou le FC Séville, non, pardon, où 777 Partners ne peut plus payer les arriérés de paiement, ou voilà, s'il y a des gros problèmes financiers, bah, c'est évidemment Oleg Boyko qui récupère les parts des prêts, en fait, qu'il a, enfin, des clubs, du coup, parce que c'est lui qui a les prêts, et la garantie des prêts, c'est évidemment les parts des clubs. Donc voilà. À côté de ça, pour situer un petit peu qui est Oleg Boyko, pour te montrer à quel point c'est un mec assez recommandable, le Sénat américain a dit qu'il avait des liens préoccupants avec le gouvernement russe, avec les services de renseignement et de sécurité, et aussi avec le crime organisé. Voilà. Donc un mec aussi très fréquentable, et le seul truc qui enfin, pour en revenir un petit peu à Everton, parce qu'on est un petit peu divergé depuis tout à l'heure. En fait, il faut savoir que Boyko, c'est aussi un mec qui est très proche de Farhad Moshiri. Et donc, voilà, tu vois la connexion venir.
Ouais, je la vois arriver, mais c'est intéressant, même si on s'est un petit peu perdu, on va dire, en circonvolution un peu économique. Mais c'est intéressant parce que c'est pour ça aussi qu'on essaye d'expliquer ce qui est, entre guillemets, ce qui est en train de devenir le foot, en fait, avec tous ces fonds
Ouais.
d'investissement-là, etc.
Et
C'est
qui
pas
gère
juste
ces
des
buts?
mecs qui mettent.
Ouais,
Quoi?
et qui gère ce genre de
Oui,
club, en
voilà.
fait, et qui gère
C'est
la
ça, et
façon dont il le gère.
c'est pas des mecs lambda qui arrivent derrière, etc. C'est des mecs qu'on, en fait, on sait pas exactement ce qu'ils veulent faire. Enfin, tu vas nous en dire un petit peu plus avec Everton notamment, mais je trouve ça quand même assez inquiétant et préoccupant pour le foot. Soit dit en passant aussi, personne n'a jamais connu de mec qui s'appelle Oleg, qui est très sympa. On n'a jamais dit, tiens, Oleg, il est adorable.
Non, mais au féminin, tu
Bon.
vois, nous, on a eu Olga Rougelnik sur Sous le Capot. Très sympa. Très sympa.
Ouais, mais Olga, sympa. Olga, meilleure
Olga, plus
ambiance.
sympa. C'est vrai, on est d'accord. On est d'accord.
Oleg, tu sais, je l'imagine, pour moi, il a qu'un œil déjà. Avec certainement un cache-œil en cuir.
Oui, c'est exactement ça.
Chez nous, on a Oleg Le Pen.
Voilà.
Donc, tu nous rappelais que du coup, le peu recommandable Oleg Boyko, qui est très proche de Poutine, c'est aussi un proche de Farhad Moshiri, c'est ça?
Ouais, bah, c'est comme ça que va se faire la connexion avec Everton. Justement, en septembre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un accord qui est trouvé entre les deux clubs pour que 777 Partners donc rachète 94,1% des parts du club, donc toutes les parts qui sont détenues par Farhad Moshiri. Alors, il n'y a aucun montant qui est communiqué officiellement, parce que le rachat est évidemment soumis à des procédures de vérification des comptes de 777 Partners. Du coup, il y a une première instance administrative, dont j'ai oublié le nom, pardon, qui valide la possibilité de rachat assez rapidement. Mais il y a une deuxième commission, qui est évidemment celle de la Première Ligue, qui... connaissant un petit peu 777 Partners et ses investissements dans le foot et sa gestion de certains clubs, comme le Standard de Liège, par exemple, où c'est catastrophique, ou le Hertha Berlin aussi, bah, va lancer une procédure de, qui est annoncée qu'elle durera maximum 12 semaines. Donc ça, c'était début octobre. On est mi-mars, ça fait donc 6 mois. On n'a toujours pas eu d'évolution, on est même fin mars, toujours pas eu d'évolution. Et voilà, donc c'est qu'il y a évidemment Anguille Souroche. Le seul petit truc qui permet à 777 Partners d'espérer, c'est qu'ils ont, enfin, pas le seul petit truc, mais parmi les choses qui sont importantes, c'est qu'évidemment, ils ont, dans l'attente de la décision de cette procédure, ils ont une exclusivité de discussion pour le rachat du club. Donc pour l'instant, le Farhad Moshiri ne peut pas solliciter d'autres investisseurs en attendant la fin de la procédure.
Mais en fait, alors du coup, pour être sûr, et on va avancer ensuite, etc., sur cette enquête, sur cette partenaire, mais pour être sûr, pour bien comprendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore propriétaires d'Everton.
Non.
Que Moshiri vend parce qu'avec les Russes, ils peuvent faire un machin. Donc en fait, ça explique un peu le bordel d'Everton aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun capitaine dans ce navire, en fait.
Bah, il y a. Moshiri est là, mais il n'a pas l'argent pour renflouer les caisses. Il y a des projets de stade, il y a des dettes absolument monstrueuses. On reviendra peut-être un petit peu après sur justement sur la situation d'Everton, peut-être finir sur 777.
Ouais, bien sûr. Et du coup, justement, cette procédure qui était censée durer 12 semaines, qui dure 6 mois, j'imagine que si ça prend autant de temps, c'est que ils sont en train d'éplucher un peu tout ça et qu'il y a quelques doutes sur les capacités financières de.
Ouais.
De ça me saoule 777 par
contre. Exactement. Bah, en fait, la Première Ligue est évidemment en train d'enquêter et de disséquer un petit peu tous les comptes, mais il y a un autre média qui est en train d'enquêter assez sérieusement, que je dois féliciter et saluer parce que j'ai pris un abonnement là, pour travailler cette émission, à Josimar, qui est le média norvégien dans lequel écrit beaucoup Philippe Auclair, notamment Romain Molina aussi un petit peu. Et je dois avouer qu'ils font un travail, mais colossal sur l'entité et sur le groupe 777 Partners. Il y a des articles, mais qui sont d'une précision et d'une justesse de dingo. En tout cas, journalistiquement, c'est du très très haut niveau. Et donc, dans un de ces articles, moi j'ai appris que 777 Partners donc, doit aujourd'hui plus de 3,6 milliards de dollars à ses créanciers. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait?
C'est autre chose que la dette au Macumba de David.
Voilà. Enfin, je lui souhaite en tout cas que ce soit un peu plus, parce que sinon, c'est qu'il a vraiment beaucoup plus pris de shots, de mettre de shots. Mais 3,6 milliards d'euros. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils empruntent de l'argent à gauche, à droite pour pouvoir financer des rachats de projets. Sauf que les rachats de projets ne gagnent pas autant d'argent que ça. Du coup, ils rachètent de l'argent. Enfin, ils réempruntent de l'argent autre part pour financer les autres, etc. Donc en gros, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ils doivent 1 milliard d'euros à un autre fonds qui s'appelle Kenneth King, 1,22 milliard à un troisième fonds qui s'appelle Credit G. Voilà, ce qui pourrait, sur le papier, ne pas être forcément problématique s'il y avait des perspectives positives. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas.
Ouais, pour expliquer un petit peu, mais après, bon, c'est pas le sujet le plus important aux gens, mais en fait, c'est aussi, s'ils s'endettent comme ça, c'est aussi la manière de fonctionner de ces fonds-là. C'est qu'ils empruntent pour acheter des trucs et que le but du jeu, c'est que le truc que tu as racheté refinance ta dette et donc rembourse ta dette et derrière, tu fais un bénéfice dessus. Mais forcément, avec le foot et avec d'autres entités un petit peu plus hasardeuses, c'est plus compliqué quand tu te plantes, surtout quand tu te plantes plusieurs fois. Et donc, du coup, ce qui est compliqué avec eux, c'est que en dehors, on va dire, des clubs rachetés par 777 Partners, il y a des problèmes aussi avec les autres filiales et les entreprises du groupe pour qu'ils soient en détachement-là.
Bah, je peux commencer, si tu veux, avec un petit point sur les différents clubs qu'ils ont. Le Hertha a coulé en deuxième division. Ils doivent énormément d'argent au Standard de Liège. Ils ont des créances au Standard. 4,4 millions d'euros à payer. Ils ont un prêt aussi à rembourser à Bruno Venanzi, qui est l'ancien propriétaire du Standard, de 4 millions d'euros. Il y a plus d'un million d'euros d'impayés dans le club de Vasco de Gama. Il y a d'autres impayés encore au Genoa. Il y a les aussi, sans compter tout ça, dans les dettes du club. Donc, près de 24 millions d'euros au Standard cette année. 28 millions au Genoa. Noah, 34 millions au Vasco de Gama, et aussi il possède un club de basket londonien qui s'appelle les London Lions, où il y a quasiment 10 millions d'euros de dettes. Donc voilà, ça c'est uniquement le point sportif, hein. Si tu veux, je peux.
Oui, et on imagine gentiment que si ça se passe comme ça dans le sportif, je sais pas si c'est aussi bien gérer les autres, on va dire que les autres secteurs d'activité soient extrêmement bien gérés. Justement, tu vas nous en parler des autres filiales
Ouais,
pour
bah
comprendre
justement,
l'état en fait de 777.
ouais, exactement. Bah en fait, c'est ce que je disais, ça pourrait, toutes ces dettes pourraient ne pas être problématiques si tu as des finances saines derrière, mais là, c'est pas du tout le cas, en fait. Tu as déjà énormément d'arriérés de paiement sur différentes entreprises et créanciers qu'ils ont. Ils ont quasiment 150 millions d'euros d'arriérés de paiement, donc c'est des retards de paiement, en fait, dont notamment 52 et une entreprise qui s'appelle ACAP, qui est donc détenue par un des gros fonds sur lesquels ils doivent énormément d'argent. Donc ACAP qui finançait donc 777 RE, donc la filiale de réassurance dont je vous parlais tout à l'heure, sauf qu'à l'automne dernier, en fait, 777 RE a été mis sous contrôle administratif parce que les agences de notation, tu sais, qui donnent les notes de confiance aux différentes entreprises et voilà, et voir si elles sont solvables et fiables, bah, ils se sont fait passer de la note de 777 RE de A- à C à cause des différents problèmes financiers. Conséquence de tout ça, bah, l'agence de notation a aussi baissé la note de ACAP, donc la filière, enfin l'entreprise qui finance 777 RE, et ils ont fait baisser cette note-là parce qu'ils dépendaient évidemment beaucoup du portefeuille de 777 RE, donc c'est normal qu'ils soient dévalués aussi, sauf que évidemment ça leur a pas plu, ils l'ont pas très bien pris, et du coup bah, ils ont décidé de se retirer du financement de 777 RE, ce qui est quand même enfin un gros investissement. Là non plus, ça n'a pas plu à 777 RE, donc il y a des procédures judiciaires qui ont été lancées avec des communiqués notamment dans lesquels les dirigeants de Cap A, pardon, non de ACAP, pardon, parlent du château de cartes 777 qui est en train de s'effondrer. C'est dire à peu près la confiance qu'il peut y avoir dans ce type de filiale et de groupe par rapport à 777. Et le problème, c'est qu'ils ont le problème exactement pareil avec une autre truc qui s'appelle Silac Insurance Company, qui là a investi quasiment 1 milliard d'euros dans 777 RE, pareil, qui a vu sa note dégradée et donc ils se sont retirés aussi. Donc voilà, et pour te donner de manière générale, dans la dernière année, il y a 9 entreprises qui ont entamé des poursuites judiciaires contre 777 pour des raisons similaires. Et en fait, on est en train de se rendre compte petit à petit que c'est une véritable pyramide de Ponzi. En fait, ce qui se passe, c'est que 777 emprunte à des entreprises. Investi dans d'autres, enfin, emprunte pour investir dans des entreprises, sauf que les investissements sont pas rentables. Du coup, ce qu'ils font, c'est que pour rembourser les entreprises à qui ils ont emprunté, ils empruntent à d'autres entreprises à des taux encore plus importants. Et en fait, au fur et à mesure, t'empruntes, et en fait, t'as plus jamais les capacités de rendre de l'argent. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à 777 Partners.
Mais du coup, là, c'est complètement en train de se péter la gueule. Donc, on va vraiment assister à ce château de cartes qui va s'effondrer, en fait.
Ouais, bah en fait, techniquement, quand tu as tes principaux soutiens financiers qui s'en vont, plus ta notation d'évaluer, donc ce qui fait que bah, tes taux d'intérêt augmentent parce que les gens ont moins confiance en toi, bah souvent c'est que tu es un petit peu dans la merde. C'est pour ça qu'ils ont essayé de faire en place, enfin de faire ce qu'on appelle des effets d'annonce, où en gros ils ont dit que de nouveaux investisseurs allaient investir quasiment 1,2 milliard d'euros en août dernier dans 777 Partners pour relancer un petit peu les différentes activités. Ça a pour but de rassurer les investisseurs et les créanciers. Qu'a encore 777, sauf que bah, ça c'était en août dernier et que depuis bah, il n'y a eu aucun investissement. Il y a même plusieurs investisseurs qui ont annoncé qu'ils abandonnaient l'idée d'investir dans 777.
Donc là, on vous a bien résumé un petit peu le merdier dans lequel est 777 Partners. C'était peut-être un petit peu lourd pour certains, mais c'était important d'expliquer en fait qui est-ce qui était en cours pour reprendre ce club-là. Ce qu'on a du mal à comprendre, voilà, on va s'intéresser du coup un peu plus au foot maintenant et à notre sujet avec le club d'Everton, c'est que dans cet état-là, s'ils sont à ce point-là en train de se casser la gueule, etc., pourquoi ils vont investir dans un club comme Everton qui est un pas ouf financièrement et tu l'as dit qu'il y a plein de projets coûteux qui arrivent. Là, dans l'avenir proche.
Bah c'est ce que je disais juste avant là, c'est potentiellement un effet d'annonce aussi. En fait, montrer une espèce de démonstration de confiance dans les comptes de 777 Partners, de courage et de se dire, bah en fait, regardez, on a encore des investissements, enfin on a encore la capacité de faire des investissements, on investit dans un gros club de première ligue qui va nous rapporter de l'argent, de la visibilité, de la crédibilité, etc. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, et c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Auclair dans un de ses articles sur Josimar, qui dit, c'est comme le dernier coup de dé d'un joueur. Les derniers coups de dés, pardon, d'un joueur qui a perdu à presque toutes les tables auxquelles il s'est assis auparavant. Donc, en gros, c'est un peu, tu sais, la dernière
Oui,
chance. On tente, voilà.
il tente un peu un all-in sur Everton, ce qui va faire plaisir
Voilà.
à nos amis les Toffees, qui sont déjà pas au mieux sportivement. Et du coup, justement, parce qu'on a dit que c'était un club qui était un peu dans la merde, etc. Est-ce qu'on peut s'intéresser à la situation financière d'Everton entre leur dette, la valorisation, où est-ce qu'on en est du côté de la Mersey pour les Blues?
Bah, l'avantage d'Everton, c'est que c'est un club de première ligue. Ça a l'air d'être une banalité comme ça, mais en fait, comme c'est un club de première ligue, ça veut dire que
t'as quand même la possibilité de faire un vrai chiffre d'affaires et en relançant un peu le club, tu vois, il y a quand même un marché important, intéressant, du public et tout. Donc le club a quand même une valeur marchande qui est intéressante aux alentours de 550 millions d'euros. Le problème de tout ça, c'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, c'est que bah en fait il y a énormément de dettes qui ont été contractées par le club, notamment depuis le départ d'Ousmanov. Il y a plus de 550 millions d'euros de dettes dues à des entreprises annexes. Donc il y a un fonds qui s'appelle MSP Sports Capital. Bref, les dettes s'élèvent en tout et pour tout à 550 millions d'euros, donc quasiment la valeur du club, dans lesquelles il faut comprendre donc les dettes à d'autres tiers. 190 millions d'euros de dettes qui sont dues à 777 Partners, parce qu'en gros, depuis un an, 777 Partners réussit à obtenir des prêts pour le fonds de roulement du club d'Everton et pour le financement du stade. Donc en gros, ce n'est pas pour les transferts, etc. C'est vraiment pour juste la vie au quotidien du club, pour que le club puisse survivre, parce qu'aujourd'hui, Rachad Moshiri n'a pas les moyens de financer le club. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il emprunte. Donc 190 millions là-dedans. Je crois que c'est quasiment 6 milliards, 180 millions aussi donc au tiers, donc MSP Sport Capital, etc., qui finançait le club avant. Et tu as une partie des dettes qui est aussi due au financement du stade. Ce à quoi il faut rajouter en plus éventuellement les dettes que tu dois à Farhad Moshiri, qui a, avant de plus avoir les capacités de le faire, réinvesti et remis au pot très régulièrement chaque année pour que le club survive. Et rajouter à ça éventuellement le rachat des parts de Farhad Moshiri. Donc que tout ça, juste tu pourrais estimer que si tu remboursais totalement Moshiri, mais ce ne sera jamais le cas, en fait c'est de l'argent qui est perdu pour lui, plus si tu le rachètes ses parts, c'est encore environ 450 millions d'euros. Donc en gros, le rachat d'Everton aujourd'hui, si tu enlèves une partie du financement du stade, c'est quasiment 1 milliard d'euros pour un club qui en vaut 550 millions. Donc c'est évidemment un gouffre financier.
Oui, parce que du coup, outre l'effet d'annonce, on voit mal financièrement comment ils vont s'en sortir. Et du coup, pour revenir à cette procédure qui traîne, qui est censée durer 12 semaines, est-ce qu'on peut se faire un petit point? On en est où là?
Ouais, bah, y a enfin eu une réunion là au début du mois avec 777 Partners et la Première Ligue. À la surprise générale, la Première Ligue a accepté de proposer des conditions d'acceptation du rachat. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé le rachat, mais évidemment à certaines conditions qui sont assez strictes. Alors pourquoi la Première Ligue a accepté ça? C'est notamment dû au fait que Everton est, en fait, tu l'as dit tout à l'heure, un des clubs fondateurs de la Première Ligue, qui joue un rôle hyper important dans la gouvernance du championnat. Et voilà, et c'est un club historique aussi, donc qui a évidemment un poids politique qui a joué. Et en gros, il faut sauver le soldat Everton. Et donc, la Première Ligue a fixé des conditions très strictes pour accepter le rachat. La première, c'est transformer les prêts de 777 Partners en fonds propres. Donc, en gros, environ 190 millions d'euros, les prêts de 190 millions d'euros qu'a accordé 777 Partners, dont je parlais il y a quelques minutes, doivent en gros être transformés en fonds propres. Donc, en gros, c'est un peu comme si tu disais j'annule la dette de 190 millions d'euros. Deuxième condition, rembourser les 190 millions d'euros de dettes dues à MSC Sports Capital. Donc ça, c'est l'autre fonds d'investissement qui finançait le club avant ça, d'ici fin avril, donc c'est très bientôt. Troisième condition, apporter des preuves de financement du nouveau stade. Je l'ai dit, il y a un projet de nouveau stade qui a été conclu entre la Première Ligue et Farhad Moshiri en septembre dernier, qui devrait arriver du coup en 2025-2026. C'est quand même un projet à 930 millions d'euros, donc il faut quand même avoir un certain backup financé derrière pour pouvoir financer ce genre de choses. Et dernière chose, mettre des fonds nécessaires sur ce qu'on appelle un escrow account pour permettre au club de finir la saison économiquement. Donc en gros, c'est je ne sais pas de combien est ce montant, mais en gros, 777 Partners doit mettre de l'argent sur un compte. À partir du moment où l'argent a été mis sur ce compte, Farhad Moshiri transfère ses parts et récupère directement l'argent. Mais voilà, c'est une garantie d'être sûr que l'argent soit déjà déposé sur un compte pour pouvoir récupérer l'argent.
Non, parce que je comprends le concept de sauver le soldat Everton, mais là, dans ce que tu décris, moi, surtout là, quand on a fait tout le backup de 777 Partners, etc., t'as un peu l'impression que c'est reculé pour mieux sauter, quoi. Parce qu'ils vont les sauver cette année et puis qu'est-ce que ça va être après. Enfin bref, on n'a pas de boule pour lire dans l'avenir. Et du coup, ça, c'est les conditions qu'a fixées la Première Ligue. Et comment, du coup, et les actionnaires de 777 Partners et Everton ont réagi à ces conditions-là?
Bah, alors, il n'y a rien d'officiel parce qu'il y a évidemment des accords de confidentialité, mais il y a des sources de différents médias qui affirment qu'en fait, 777 Partners avait déjà prévu de remplir les deux premières conditions, donc transformer les prêts en fonds propres et rembourser les dettes de MSP Sport Capital. Après, c'est difficile de savoir comment ils vont gérer déjà ces deux conditions-là. Il y a quelques doutes. Et en plus de ça, comment ils vont gérer les deux autres conditions, donc le financement du stade et l'escrow account. Alors, pour le financement du stade, ils se seraient rapprochés d'un autre fonds d'investissement qui s'appelle Blue Hole Capital, qui serait intéressé pour financer une partie, mais en fait, il serait intéressé uniquement pour financer le stade, qui est en fait le principal actif du club aujourd'hui, le projet de futur stade. Et c'est un peu que là-dessus que le club se repose. Mais évidemment, ce fonds d'investissement-là ne serait pas très intéressé pour racheter le club. En fait, il serait intéressé pour racheter le stade et pas pour racheter le club, qui sont deux entités différentes. Donc voilà, en fait, ils sont intéressés pour financer un projet immobilier, mais pas pour combler des dettes de Cassos à gauche à droite, quoi. Donc ça, c'est du côté de 777. Et du côté des clubs, bah, on espère évidemment que le deal va se conclure assez rapidement, parce que le club continue à creuser des dettes. C'est pour ça que 777 prêtait de l'argent. Et en plus, il est annoncé qu'en cas d'échec, alors certains disent que des investisseurs seraient intéressés, mais en fait, c'est un peu compliqué de réussir à se projeter compte tenu de la situation économique du club. Donc voilà, aujourd'hui, la situation est hyper, hyper compliquée. Il y a des tâches hyper simples comme la budgétisation ou la planification économique qui peuvent même pas être envisagées parce que le contexte est trop instable. Et voilà, et on dit que tout ça commencerait évidemment aussi à avoir un impact sur le sportif au bout d'un moment, ce qui est normal. Et il y a une autre entité qui est très inquiète de la situation, c'est évidemment les fans du club, qui sont inquiets à la fois concernant la solvabilité du club là à très court terme, et aussi inquiets en cas de rachat de 777 Partners, qui est aujourd'hui la seule solution, mais qui n'inspire pas vraiment confiance compte tenu de tout ce qu'on vient d'expliquer, quoi.
Surtout qu'on a l'impression que ça risque d'aller au bout, parce que vu déjà les billes qu'ont mis ces 777 Partners, je les vois, ils vont tout faire pour rentrer dans ces conditions-là et que leurs investissements soient pas vains.
Ouais.
Du coup, là, maintenant qu'on en est là, c'est quoi les prochaines étapes pour Everton ?
Bah, là, en vrai, l'annonce de la Première Ligue, enfin, ce qui n'a pas été une annonce officielle, ça a été plutôt une lettre communiquée aux différents protagonistes de ce deal, laisse présager qu'on entre vraiment dans la dernière phase de l'enquête et qu'il y a un rendu qui sera définitif d'ici normalement la fin du mois d'avril. C'est compliqué. La Ligue donnera son verdict. Alors, dans la procédure, normalement, la Ligue donnera son verdict fin avril. Il y aura un comité de surveillance indépendant qui vérifiera si la procédure en question est régulière et que, et dans le cas où 777 Partners remplit toutes les conditions nécessaires, il y aura évidemment des vérifications qui seront faites. Mais voilà, moi, j'ai du mal, une fois qu'on a fait le point, pardon, sur toute cette situation-là, moi, j'ai du mal à envisager et imaginer comment une société comme 777 Partners puisse réussir à financer ce genre de choses compte tenu de la dette qu'ils ont accumulée à gauche, à droite, compte tenu de la dynamique aussi de l'entreprise ces dernières semaines. Voilà, ça me paraît très compliqué, et si ça se fait, je ne suis pas très optimiste pour les futures années à venir de Everton.
Surtout quoi, ce que tu dis, parce qu'en plus, on comprend avec tout ce que tu as dit que, en fait, potentiellement, la Première Ligue va être un peu conciliante, parce qu'en fait, il faut vraiment sauver Everton, dans le sens où, là, vu les dettes et l'état financier du club, s'ils descendent, c'est une catastrophe.
Là en fait on parle plus de relégation administrative dans des divisions encore inférieures, en fait, parce que le club vit sur des budgets de Première Ligue et vit déjà à perte, donc si tu retires des budgets de Première Ligue, enfin si tu retires des nouveaux revenus donc de la Première Ligue, tu, évidemment, même s'il y a un parachute en Première Ligue, quand tu descends en Championship, tu continues à toucher de l'argent beaucoup plus important. Mais en fait, le club ne pourrait pas survivre et on parlerait très probablement de relégation administrative dans des divisions très largement inférieures. C'est
assez catastrophique pour un des clubs historiques de la PL. On va parler un peu plus de sportif, on va s'intéresser un petit peu à la situation sportive d'Everton, voir comment ils peuvent se sortir aussi de cette saison bourbier. Avant ça, est-ce que Val, tu peux nous expliquer, revenir vite fait sur cette histoire de retrait de points administrativement
Ouais.
Everton. Il n'y a aucun lien avec 777 Partners. Donc.
Alors, pas avec 777 Partners, mais avec la gestion compliquée, en fait, depuis le départ d'Ousmanov, notamment. Et même un petit peu avant. Alors, avant, il avait tendance à remettre au pot, mais il y avait déjà des problèmes opérationnels. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le club fonctionne à perte aujourd'hui. Donc, il y a eu deux enquêtes menées par le Profit and Sustainability Rules. Donc, les règles de profit et de durabilité économique des clubs. En gros, ils ont dépassé...
DNCG,
Ouais, l'équivalent. Je pense que les PSR, comme on les appelle, ont plus de pouvoir que la DNCG. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je laisserai évidemment David me corriger ou non. Mais en gros, le club a dépassé le seuil autorisé de dette sur la période 2018-2022. Donc c'est t'as le droit à 105 millions d'euros de dettes sur les 3 dernières années. Là c'est 4 dernières années parce qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu un petit changement, une petite amélioration pour les clubs, si je peux dire, mais voilà, du coup ils ont dépassé ce montant de 25 millions d'euros je crois sur cette période là et donc ils ont été sanctionnés de 10 points, ce qui a été réduit à 6 parce que la commission d'appel a estimé que le jugement avait été disproportionné par rapport aux autres sanctions, et ils ont conclu aussi que le panel qui avait pris la décision avait fait des erreurs juridiques. Le problème c'est que en fait du coup ces 6 points sont validés, c'est terminé, c'est entériné, ils ont déjà perdu 6 points, c'est pour ça qu'ils en ont que 25 au lieu de 31 si je dis pas de conneries cette année en première ligue. Le problème c'est qu'il y a une deuxième enquête qui porte sur la période 2020 à 2023, et là il y a un problème, c'est que en fait ils sont jugés sur des années sur lesquels ils ont déjà été jugés dans le premier procès en fait. Donc 2018-2022 le premier procès, 2020-2023, il y a deux années en commun qui font débat en fait, donc ils parlent de double incrimination, donc c'est là-dessus qu'ils vont évidemment jouer sur un petit peu la zone grise juridique et essayer de militer pour minimiser la sanction et faire en sorte que ce soit pas une espèce de double sanction pour eux. Voilà, et ils ont un autre argument pour minimiser la sanction, c'est que en fait pour la première commission qui était passée, ils avaient avancé 9 mesures d'atténuation de la sanction. Il y en a que 2 qui avaient été retenues, c'est pour ça qu'ils étaient passés de 10 à 6. Mais parmi les 7 rejetées, il y avait notamment le mention de la guerre en Ukraine. Donc c'est ce que je disais, en fait, ils avaient perdu énormément de recettes avec le départ d'Ousmanov qui leur avait coûté énormément d'argent, notamment sur les sponsors, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ils ont avancé cet argument-là qui a pas été retenu parce que ils n'avaient pas les preuves suffisantes, donc ils vont probablement avancer ce truc-là l'année prochaine. Et il y a quand même des chances aussi que ce sera un peu moins grave cette sanction-là, parce que il y a eu pas mal de ventes de joueurs importants. Je pense notamment à Gordon ou à Moiskin, qui ont été vendus pour des sommes assez importantes, qui ont été comptabilisées là sur l'année 2023 et qui devraient normalement permettre à Everton de boucher un petit peu le trou. Le seul truc, c'est que la dette extérieure du club est tellement importante que les taux d'intérêt ont augmenté et que ça pourrait creuser encore plus justement cette dette et que ça viendrait éventuellement compenser négativement les ventes de ces joueurs-là. Mais voilà, ça devrait être un petit peu moins important normalement que cette première sanction.
Ouais, parce qu'en fait, j'avais un petit doute, mais du coup, c'est bien, c'est quand même bon. C'est que de toute façon, là, les 6 points pour cette saison, ça c'est fait. Il y en aura
c'est
pas fait, moins.
Ouais. C'est validé, c'est entériné. Réglé, la commission d'appel a validé. Terrible,
du coup, s'ils se maintiennent, ils peuvent prendre un deuxième coup sur la nuque. On va parler un peu de sportif avant de terminer l'émission quand même, parce que c'est cool de parler de foot quand même. Qui est-ce dans tout ce merdier là, avec 777 Partners, les Russes, machin, etc. Est-ce que quelqu'un gère la direction sportive de ce club-là ?
Oui, il y a un point positif dans ce club, peut-être. C'est ce directeur sportif, Kevin Tellwell. Lui, il a un nom de gentil ou pas ?
Ouais, ça va, Kevin Tellwell. Tu imagines bien gambader avec un blouson en daim.
Ouais. Il se balade comme ça, les mains dans les poches. Un peu comme Flo, tu sais, avec son blouson en daim.
Le faux Flo.
Le faux Flo, exactement. Non, ce mec-là a été recruté en février 2022 au New York Red Bull. Alors février 2022, évidemment, c'est le moment où les problèmes financiers du club se sont très sérieusement accélérés. Pardon.
Sale recrutement pour lui. Hein. Le gars, ouais, il a New York Red Bull.
Sacré timing, ouais. Bah, après, du coup, il a du boulot. C'est ça qui est cool. Il avait du boulot. Parce qu'il arrive au moment du départ d'Ousmanov, donc le moment du départ des sponsors, donc le moment où tu commences à perdre de la thune, donc le moment où il faut serrer la ceinture. Donc 2 ans plus tard, où est-ce qu'on en est ? Un mandat un petit peu chaotique, 2 batailles pour la relégation sportive, des déductions de points, un rachat qui est évidemment très compliqué, il y a eu des départs d'actionnaires assez importants, il y a des joueurs 4 qui sont partis pour équilibrer les fonds. Bref, la galère sans nom. Et donc, lui, ce qu'il doit faire, c'est réussir à sauver les meubles avec peu de revenus et essayer, évidemment, de préparer une quelconque planification sportive pour les prochaines années à venir. Pour donner un petit chiffre, au moment de son arrivée, il y a un ratio salaire-chiffre d'affaires qui représente 90%. Donc, en gros, 90%. 90% du chiffre d'affaires part dans les salaires. C'est-à-dire que c'est pour ça que le club est déficitaire. Hein. Ça fait partie du principe de base où, en fait, quand tu payes trop tes salariés, bah voilà. Donc ça, c'est la conséquence évidemment de la politique de Farhad Moshiri depuis des années. Donc il y a évidemment un gros besoin de dégonfler la masse salariale, de réduire les commissions d'agents. Et de sécuriser aussi les contrats, donc arrêter de proposer des contrats de 7 ans à des joueurs âgés, par exemple, inclure des baisses de salaire en cas de relégation, enfin, tu vois, des trucs un peu basiques pour éviter la connerie, quoi. Donc, depuis 2 ans, la masse salariale est passée de 107 millions à 79 millions, ce qui est quand même assez intéressant en termes de réduction de salaire. Et d'un point de vue sportif, à côté de ça, il a quand même fait pas mal de choses. Il y a le choix de Sean Dyche qui est assez intéressant pour sécuriser l'équipe. Alors, il aurait pu avoir l'erreur de conserver Lampard un peu trop longtemps parce qu'il correspondait culturellement à l'idée du club, mais après, sportivement, c'était pas suffisant. Sur le sportif, il aimerait, c'est ce que je te dis, il aimerait faire une vraie planification sportive. Évidemment, il s'inspire de ce qu'il a vécu lui au groupe Red Bull avec un jeu très vertical, avec beaucoup de courses. Il a essayé d'incorporer évidemment la question de la data beaucoup dans le fonctionnement du club. Alors, avec des budgets minimes, mais en fait, c'est intéressant d'investir là-dedans quand t'as pas beaucoup d'argent. Voilà, il y a beaucoup d'importance qui est mis dans la data, que ce soit dans l'analyse des matchs. Il y a des rapports qui sont faits après chaque match, il y a des réunions hebdomadaires avec les stats, il y a des études comparatives avec les autres équipes, mais aussi dans le recrutement évidemment, ou alors aussi dans le travail sur les coups de pied arrêtés. C'est pour ça qu'Everton a une très bonne équipe de coups de pied arrêtés cette saison, et
également une très bonne équipe de coups de pied arrêtés, car on a évidemment le Ginger Mourinho à la baguette.
Oui, Shandaish.
Shandaish qui a toujours eu des équipes avec des très bons ratios sur coup de pied arrêté. Ouais. Son Burnley était un des meilleurs dans ce domaine-là. Pour revenir un peu à ça, en fait, Shandaish, c'est pas si affreux qu'on le dit. C'est juste qu'en fait, quand tu regardes l'effectif d'Everton aussi, c'est quand même extrêmement limité. Donc, il fait du Shandaish, c'est qu'il essaye d'être très solide.
C'est les conséquences de ce que je te dis. Hein.
Des grandes banderies devant, comme on peut sur Beto ou Dominique Calvert-Lewin. On va dire que le seul petit éclair peut-être positif dans la saison d'Everton, c'est peut-être Dwight McNeil, qui a retrouvé ses jambes avec Sean Dyche qu'il avait lancé à Burnley. Donc je pense qu'ils ont une bonne relation tous les deux, qui fait qu'il est vraiment devenu le leader technique de cette équipe-là. T'as Amadou Onana qui fait pas une mauvaise saison non plus.
Exactement. Au milieu de terrain. En fait, ça, c'est les conséquences c'est ce que je te disais, de la data aussi qui est dans le recrutement, qui a été investi dans le recrutement. Alors, il y a justement des équipes de recrutement qui ont été intégrées. Il y a un mec qui s'appelle Dan Purdy, qui est un mec qui est spécialisé sur l'Europe et sur les joueurs à potentiel plus-value. Donc, c'est lui qui a recruté McNeil et Onana. Il avait ciblé Kudus à l'époque à l'Ajax quand il était encore là-bas. Il avait ciblé Brennan Johnson quand il a percé à Nottingham. Donc, voilà, c'est un mec qui repère pas mal d'efforts potentiels. Il a rajouté à ça des recruteurs expérimentés en Europe, il en a mis en Amérique du Sud, il en a mis en Argentine, au Brésil, il en a mis aussi en Scandinavie. Donc voilà, il y a des investissements qui sont faits, qui sont malins, je trouve. Et puis dans les joueurs qui sont ciblés, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il va cibler notamment des joueurs qui ont des environnements familiaux qui permettent de résister un petit peu à la pression d'un club de première ligue, ce qui est intéressant. Et il va cibler justement aussi des joueurs qui sont dans le profil de jeu qu'essaie de mettre en place Sean Dyche, donc des joueurs qui ont des grosses résistances à l'effort. Tu l'as dit, Onana, etc. Et aussi des joueurs assez jeunes pour essayer de faire des plus-values, parce que c'est aussi comme ça qu'on restructure un club. Donc, il y a eu cet été le recrutement d'Onana qui était intéressant. Il y a eu le recrutement il y a quelques années pour rien du tout de Jarrad Brunswaite, qui a été sélectionné là avec les Three Lions. Et puis, ils ont recruté cet été un petit gars au Sporting Lisbonne qui s'appelle Youssef Chermiti, qui s'est blessé, mais qui était dans le viseur de beaucoup de clubs et qui est prévu pour être l'un des très bons joueurs de l'équipe d'Everton dans les prochaines années, en tout cas.
Ouais, qui rejoue. Et puis même cet été, le prêt de Danjuma, c'était pas idiot. Beto non plus, c'était pas complètement bête. Enfin, en fait, on a presque envie que cette équipe d'Everton ait le temps. Parce que là, très honnêtement, tu regardes leur effectif, pas affreux, mais c'est logique que ça joue le maintien en première ligue, encore plus avec un déficit de 6 points. Et surtout que tu regardes sur le banc, il n'y a rien. Donc, ils vont devoir serrer les dents.
Bah, et c'est un des sujets, en fait, parce que sur le banc, tu pourrais te dire, en vrai, on n'a pas de thunes. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas de thunes? Soit tu achètes des joueurs pas très chers, soit tu fais confiance à ton centre de formation, mais en fait, le centre de formation a lui aussi vécu des périodes très compliquées. Entre 2018 et 2020, ils n'ont pas pu recruter de joueurs parce qu'ils ont eu des interdictions de recrutement à cause de galères avec des joueurs mineurs ou je ne sais pas trop quoi, sur le recrutement, hein, pas des trucs d'agression ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, mais c'est aussi pour ça que là, Kevin Talwell a eu pour mission et pour objectif, un des objectifs principaux, c'est de relancer le centre de formation. Donc, il a essayé de mettre en place un système de jeu, enfin un plan de jeu commun à toutes les catégories d'âge. Il a mis en place des joueurs qui connaissaient bien la région d'Everton et bien le cadre, en fait. Typiquement, l'entraîneur des 18 cette année, c'est Leighton Baines, l'ancien joueur du club, qui doit être peut-être le joueur qui a le plus de sélections, le plus de matchs au club ou un truc de genre. En tout cas, il est dans le top 5, c'est sûr, qui apparemment est assez impressionnant. Donc voilà, il y a des progrès qui sont faits aussi depuis l'arrivée du nouveau directeur sportif dans le centre de formation, mais tout ça prend du temps. Il y a encore évidemment énormément de boulot, mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière globale, il y a une direction sportive qui est claire, enfin avec des projets clairs, sans thunes. Mais c'est des mecs qui bossent bien et c'est des mecs qui mettent le peu d'argent qu'ils ont sur des pôles qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir relancer un club qui est dans une telle difficulté économique comme Everton.
Et honnêtement, je viens de revoir le prix. Quand tu arrives à revendre Alexis Iwobi 25 millions, c'est qu'a priori,
ouais,
t'es quand même un petit peu doué.
Oui. Non, mais
c'est trucs compliqué là. Je regardais de toute façon, enfin, voilà, le meilleur buteur du club, c'est Doucouré avec 6 buts cette saison. Donc, quoi qu'il arrive, offensivement, enfin voilà, t'as un Calvert-Lewin qui alterne les blessures et les moins bons matchs, t'as Beto qui...
Bah, ils ont des joueurs qui ont de la valeur marchande quand même. Hein. Tu vois, Onana, ouais, c'est 50 millions aujourd'hui sur Transfermarkt, Brandsweit c'est 30, Mykolenko 28.
T'as
une flopée de joueurs évalués à plus de 20 millions d'euros. Tu vois, Harrison,
mais bon, comme
Garner,
tu dis, tu vois, même si ça passe, comme tu disais, même si ça passe cette saison et que Triple Seven Partner rachète, etc., ils vont devoir récupérer de la thune l'an prochain. Donc tout ça, ça va. Enfin, on se demande où ça va aller, ce qui est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens assez compétents. Sean Dyche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même un mec qui a de la compétence parce qu'il a quand même réussi à amener Burnley en Coupe d'Europe, ce qui est quand même pas dégueulasse quand tu voyais l'effectif qu'il avait. Donc c'est juste dommage de se dire que potentiellement tout ça va se péter la gueule à cause d'histoire de gros sous. Pour conclure, Val, tu veux me faire une petite projection de comment tu vois évoluer ça? De toute façon, c'est compliqué, hein. On l'a dit, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le rachat du club, donc c'est dur de s'avancer.
Bah ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, et peut-être réhabiliter un peu aussi Sean Dyche sur le travail qu'il fait. Alors, l'année 2024 est compliquée, là, il n'y a pas eu de match gagné en Première Ligue depuis le début de l'année 2024, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est une équipe qui est incompréhensible, en tout cas, si tu fais une analyse statistique, hein, ils ont encaissé 39 buts cette saison alors qu'ils ont rendu en encaissé 47 d'après les statistiques, enfin 46,5 d'après les XG encaissés. Et c'est surtout offensivement, mais c'est une catastrophe offensivement. Ils ont marqué 29 buts, ils auraient dû en mettre 51,5. Il y a un différentiel de 22 buts d'écart entre les deux. C'est absolument monstrueux.
En vrai, c'est vraiment là que le bas blesse, hein, parce que typiquement, tu vois, moi, le dernier match contre Man U, je l'ai regardé. Les 30 premières minutes, ils dominent.
Ouais. Typiquement,
le match, il bascule de l'autre côté, mais ils sont tellement inefficaces devant.
Ils finissent à 2,5 d'XG, ils ne marquent pas un but. Dominique Calvert-Lewin, il devrait avoir 6 à 7 buts de plus cette saison. Beto, il devrait en avoir 3 à 4 de plus. Et tu te dis, mais attends, mais les mecs, vous voulez pas bosser un peu la finition aux entraînements? En vrai, il y a des trucs à faire, tu vois. Donc, en vrai, c'est assez dingue de réussir à se dire qu'ils ont 4 points d'avance sur la zone de relégation avec une telle inefficacité offensive en plus, tu vois. Il y a une certaine efficacité défensive pour le coup, mais il y a une telle inefficacité offensive que tu te dis, mais en vrai, les mecs, tu vois, si, c'est là où c'est assez dingue de se dire que cette doublette sportive, directeur sportif, entraîneur, réussit à performer dans un contexte qui est mais cataclysmique. En vrai, le contexte d'Everton aujourd'hui, c'est une catastrophe absolue. Financièrement, je veux dire. Donc, si tu me demandais de me projeter, j'ai du mal à concevoir comment aujourd'hui le club peut être racheté par Triple Seven Partners. J'ai du mal à concevoir, dans le cas où il serait racheté, comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir. Le seul espoir qu'ils ont, c'est la construction de ce stade. Encore faut-il qu'il arrive à être financé et qu'il arrive à sortir de terre assez rapidement possible, parce que c'est vraiment le seul actif financier qui permettrait au club de survivre et de se requinquer un petit peu financièrement. L'autre seul truc sur lequel tu peux compter, c'est les capacités sportives de ce duo-là, de réussir à faire remonter le club et à générer des plus-values dans les prochaines années. Mais ça va être compliqué, et de relancer le centre d'information, etc. Donc, il y a énormément, énormément de trucs à faire.
Et puis, honnêtement, comme tu me le disais en off, ça passe cette année parce que ça tombe la bonne année, hein, en première ligue, parce que t'as de la faiblesse derrière. Mais enfin, toute autre saison, à tout moment, ça se pète la gueule.
Bah,
et
ouais.
Puis, enfin voilà, les miracles vont pas durer éternellement. Ce qui est compliqué pour les Toffees, c'est qu'on a l'impression que le rachat passe, c'est la merde. Si le rachat passe pas, c'est la merde. On se demande un peu où est-ce que ça va aller. Tout
non,
ça.
En vrai, je pense que si le rachat passe, il y a de quoi envisager de se restructurer dans les quelques années à venir. Mais le moindre faux pas sportif, là, tu vois, typiquement, cette année, il y a 11 matchs en victoire en Première Ligue en 2024. Tu vois, si ça continue comme ça, il y a relégation et c'est finito. En fait, on n'en parle plus. Donc, tu vois, t'es sur un fil surtout. Et il faut juste espérer que le club se fasse racheter et qu'ils arrivent à s'en sortir un an, deux ans jusqu'à l'arrivée du stade, à faire des plus-values et à se relancer. Et une fois qu'ils seront relancés, s'ils arrivent à se relancer, c'est parti, en fait. Il y a tout pour réussir dans ce club.
Ouais, bah le fil est un peu chaud. L'avantage c'est que Sean Dyche, il sait à peu près gérer normalement les batailles pour le maintien, donc on espère que sportivement ça va le faire. Pas de grosse bonne nouvelle du coup pour les supporters des Toffees qui nous écoutent. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage à l'avenir, et on a vraiment, en fait, personne, même Flo à mon avis, n'a envie que ce club descende, parce que historiquement et pour tout ce qui représente pour la Première Ligue, ce club doit continuer à être en Première Ligue. Merci beaucoup Val, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est un épisode un peu particulier, on est rentré un petit peu dans les détails et les méandres de ce vilain serpent capitaliste, mais c'était intéressant parce qu'en fait, ce qui se passe à Everton est symptomatique de ce qui se passe dans beaucoup de clubs en Europe, en fait.
Tous les clubs de la Galaxy 777 Partners, c'est parfois pire. Hein.
Il y a beaucoup de conglomérats et de nébuleuses comme ça qui prennent possession des clubs, c'est pour ça que les fans gueulent.
Typiquement, le Standard de Liège n'est pas assuré si les paiements dont je parlais tout à l'heure, donc les 8,5 millions d'euros que doit Triple Seven Partners au Standard et à son ancien propriétaire, si ces paiements-là n'arrivent pas d'ici le 20 avril, le club n'aura pas de licence club pour exercer dans le championnat belge l'année prochaine. Le Standard de Liège, on parle du Standard de Liège. Donc voilà.
Mais c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais, je me disais que tu vois, même si le rachat il passe, vu les pimpins qui gèrent ça, ça va être compliqué quoi. Bon bah écoutez, chacun se fera son avis. Je vous encouragerais bien à regarder Everton cette année, mais en vrai c'est relou. Hein.
Ouais. En vrai ils ont des occasions, hein, mais ils les mettent pas juste donc.
Ouais bah si en vrai Dwight McNeil, t'es sûr qu'il fait une ou deux dingueries par match, donc faut être concentré. C'est pas le moment où faut fermer les yeux. voilà. En tout cas moi j'espère de mon côté que Everton va se maintenir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci de continuer à nous écouter. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce, ça nous aide énormément. Et on se voit dans 15 jours pour parler d'un nouveau club. Ciao.
Ciao.